Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francis, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a renouvelé l'état d'urgence dans le pays pour 3 mois, complétant ainsi une 3e année sous cette législation d'exception instaurée en avril 2017 à la suite d'attentats contre les églises coptes à Tanta et à Alexandrie. Des attaques dont le bilan avait été de 45 morts et qui avaient été revendiquées par le groupe État, pour le groupe djihadiste État islamique. Le décret annonçant le renouvellement est paru dans le journal officiel dimanche et il spécifie que l'état d'urgence sera prolongé pour 3 mois à compter du 27 janvier à 1h du matin, heure locale, soit le 26 janvier à 23h, temps universel. L'état d'urgence élargit considérablement les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de surveillance et peut même imposer des restrictions à la liberté de mouvement. Les organisations de défense des droits humains dénoncent régulièrement des atteintes aux libertés individuelles en Égypte, où le président Sissi poursuit depuis son arrivée au pouvoir en 2014 une répression féroce contre toute forme d'opposition islamiste ou libérale. Conflit en Libye voisine, la conférence de Berlin sur la Libye a pris fin dimanche soir dans la capitale allemande. Les principaux pays concernés par la guerre civile libyenne ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures. Les détails avec Claire Morin-Gibault.
Un accord international a été trouvé pour tenter de relancer les efforts de paix en Libye, même si les conséquences de cet engagement restent incertaines sur le terrain. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale à Tripoli, et Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, ont refusé de se rencontrer lors de cette conférence. Un problème relevé par Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, qui a reconnu n'avoir pas réussi pour l'instant à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux. Tant M. Lavrov que la chancelière allemande Angela Merkel, hôte de la conférence, ont parlé d'un petit pas en avant, tout en reconnaissant que beaucoup restait à faire pour parvenir à la paix. Principale avancée, les dirigeants de 11 pays, dont la Russie et la Turquie, ont souligné dans une déclaration commune qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Les participants ont aussi promis de respecter enfin l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, décrété par l'ONU en 2011.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Niger, près de 7000 personnes ont fui la zone de Chiné-Godard dans l'ouest du pays après l'attaque du 9 janvier qui a tué 89 soldats nigériens. Une des incursions les plus meurtrières de l'histoire du pays. C'est ce qu'a annoncé ce week-end le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, dans un communiqué. Les témoignages recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie après un ultimatum de la part des groupes armés, souligne le HCR. Selon l'agence onusienne, les populations sont la cible d'attaques, d'enlèvements ou d'assassinats, tandis que leurs biens sont appropriés par les groupes armés. Au Mali voisin, une réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, s'est tenue dimanche à Bamako afin de discuter notamment du retour des soldats maliens à Kidal, dans le nord du pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon un document officiel, l'ordre du jour de cette rencontre prévoyait le redéploiement à Kidal des premières unités de l'armée nationale reconstituée, formées des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. Le dialogue national inclusif, lancé mi-décembre avec l'opposition et la société civile et le lancement d'un fonds de développement des régions du nord du Mali, était également au menu de ces discussions. 4 ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel étaient présents, ainsi que Ismaël Chergui, le représentant de l'Union africaine. C'est la première réunion du CSA depuis que les ex-rebelles Touareg ont suspendu leur participation en septembre 2019 après le report d'une réunion à Kidal. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville de l'extrême nord depuis sa lourde défaite dans des combats face aux rebelles en mai 2014 pendant une visite de Moussa Mara, le premier ministre de l'époque.
VOA Afrique en direct de Washington.
Restons au Mali, les forces armées maliennes se renforcent avec l'acquisition d'engins blindés. Ces véhicules sont très performants et adaptés à la situation sur le théâtre des opérations. Ils résistent aux mines et autres engins explosifs et ils sont au nombre de 130. dont 100 achetés par le gouvernement malien et 30 offerts par les Émirats arabes unis. À ce lot, il faut ajouter 13 autres blindés offerts par l'Union européenne. Les blindés de l'UE sont spécifiquement destinés à équiper les deux bataillons maliens de la force conjointe du G5 Sahel. De Bamako, les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Les premiers lots de 130 blindés de fabrication russe ont été réceptionnés par la hiérarchie militaire. Dans ces lots, on trouve 7 véhicules blindés de type Typhon Kamaz et des 4x4 de fabrication russe. 30 de ces blindés sont en don des Émirats Arabes Unis. Les 130 autres sont financés par le budget national du Mali. Général de brigade Mustapha Drabo, directeur du matériel, des hydrocarbures et des transports des FAMA.
Nous souhaitons que ces blindés prennent une part très active dans le nouveau concept d'opération et qui donne une large part à l'offensive. Les engins que vous voyez là sont spécialement conçus pour mieux résister aux embuscades et pour mieux résister aux engins explosifs improvisés et aux mines. Et ce sont ces deux types d'actions que les groupes armés mènent aujourd'hui et qui font le plus de pertes dans nos rangs.
C'est sur la place d'armes de Kati que l'Union européenne a procédé à la remise de 13 véhicules blindés tout-terrain Bastion. Ce lot est composé de 8 blindés destinés au transport de troupes, 2 à la lutte anti-IED et 2 pour l'évacuation sanitaire. Et le dernier est aménagé en poste de commandement. Ils sont destinés à équiper les 2 bataillons maliens de la force conjointe du G5 Sahel. Le tout s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de l'Union européenne à la force conjointe du G5 Sahel, financé via la facilité paix africaine mise en œuvre par l'expertise France. Angèle Lacosta, représentant de l'Union européenne pour le Sahel.
Ce que nous livrons aujourd'hui, ce sont 13 véhicules pour la France conjointe du G5 Sahel, mais basés ici au Mali. Nous allons faire des livraisons similaires dans les autres pays du G5 Sahel, avec ces mêmes véhicules blindés, pour la France conjointe, comme je dis, pour qu'elle soit totalement opérationnelle depuis le début. C'est un effort très spécial que fait l'Union européenne, qui appuie non seulement du point de vue militaire, mais également du point de vue politique et du point de vue financier, la pleine opérationnalisation de la force conjointe.
Général de brigade Mustapha Drabo, directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport des femmes.
Nous en sommes très heureux. C'est le lieu de remercier l'Union européenne pour cette donation, qui n'est pas la première. Je pense qu'il ne sera pas aussi la dernière. Ces véhicules blindés sont destinés aux unités maliennes de la force conjointe du G5 Sahel. Permettra d'améliorer la protection de nos femmes qui sont engagées dans cette opération.
En plus des blindés, un citoyen malien a remis les clés de 2 véhicules de transport de troupes de 54 places chacun au ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
La présente donation est constituée de 2 véhicules de transport de marque Kamaz de 54 places chacun. Ils sont robustes et très pratiques. Ils sont essentiellement conçus pour le transport de troupes sur tous les types de terrain.
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour équiper les forces de sécurité intérieure, mais que les citoyens spontanément viennent apporter leur contribution, je pense que dans un pays en situation aussi difficile que le Mali, cela est de bon augure.
Par ailleurs, l'engagement des États-Unis au Mali et dans le Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en général, était au centre d'une audience que le président de la République a accordée à Stéphane Lech de la Chambre des représentants de l'État de Massachusetts.
My role here in another nation is voir, voir un moyen pour évaluer un peu toute l'aide que les États-Unis ont apportée. Et notre raison aussi à le sujet de discussion avec le chef de l'État a été de voir tout l'effort que le Mali déploie pour repousser les terroristes hors d'ici. Ils sont gré pour tout l'effort que le Mali est en train de déployer pour que l'État soit présent partout sur le territoire malien.
Toutes ces activités se passent dans la foulée des 59 ans de l'armée malienne célébrée ce lundi 20 janvier 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Élections aux Comores, les habitants de cet archipel de l'océan Indien ont boudé les urnes dimanche pour le premier tour des législatives. Les adversaires du président Azali Assoumani ont refusé de participer au scrutin, faute d'avoir obtenu de son gouvernement les garanties à leurs yeux nécessaires pour que ces élections soient transparentes, libres et démocratiques. Et pour terminer, ici à Washington, c'est demain que va démarrer pour de bon au Sénat américain, le procès en destitution du président Donald Trump, accusé par l'opposition démocrate et en particulier les démocrates de la Chambre des représentants d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour forcer ce pays à ouvrir une enquête sur un possible rival en 2020. L'ancien vice-président Joe Biden ainsi que son fils Hunter. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.